To understand Nigeria,
RFI,
you need to appreciate where it came from.
Grand reportage.
Le 1er octobre 1960, la colonie britannique du Nigeria accède à l'indépendance. Le pétrole vient d'être découvert, les espoirs sont immenses, mais d'emblée, l'équilibre est difficile à trouver pour la fédération composée de trois régions largement autonomes. Pendant des décennies, l'unité du pays, rapidement menacée par la guerre civile, est maintenue de force par une succession de dictatures militaires. 60 ans plus tard, les profondes divisions ethniques du pays entravent sa bonne gouvernance. La corruption des élites, l'extrême pauvreté qui touche plus de la moitié des quelques 200 millions d'habitants et l'insécurité ont enfermé le Nigeria dans une histoire qui semble se répéter au point d'entraver le potentiel de la première économie d'Afrique. 60 ans d'indépendance du Nigeria, un géant sur la brèche, c'est un grand reportage de Lisa Fabian.
Nigerians are beginning to think of themselves now as one nation.
Indeed, all Nigerians are determined that Nigeria remains united.
But not all Nigerians are enlightened.
Quite a good number are enlightened, and the majority are politically conscious.
Exactly. I entirely agree with him. We want to pursue an independent view.
We may receive the inspiration to deal with these intractable problems and be able really to devote all our resources to the advancement of mankind by applying those eternal truths which will inevitably persist long after we ourselves are utterly forgotten. Thank you.
Les rideaux sont tirés et le bourdonnement de la climatisation se mêle au murmure de la télévision. Maxwell Okoro a tout son temps depuis qu'il savoure sa retraite dans sa maison cossue de Victoria Island. Malgré ses 80 ans, l'homme a gardé l'esprit vif et la silhouette athlétique de sa jeunesse dans le Lagos des années 60, à l'aube de l'indépendance du Nigeria.
Le 1er octobre 1960, nous avons célébré notre indépendance à l'hippodrome qu'on appelle désormais Tafawa Balewa Square. C'était magnifique. Il y avait de l'espoir. Le Nigeria était quasiment l'égal de Singapour, de Hong Kong ou de la Corée. Nos politiciens étaient dévoués, droits et surtout expérimentés. C'était une période très excitante. Nous étions jeunes, nous avions de l'espoir. Il n'y avait pas de coupure de courant. Tout fonctionnait très bien. Nos salaires étaient bons. Nous pouvions même économiser pour nous acheter une radio ou un gramophone et écouter notre musique. Les routes n'étaient pas aussi encombrées qu'aujourd'hui. Les magasins débordaient de produits. Il y avait beaucoup d'étrangers aussi. Les kidnappings, les cambriolages, les viols, tout ça n'existait pas. C'est venu après, avec les problèmes économiques, avec la pauvreté. Donc, quand on regarde en arrière aujourd'hui, on regrette 1960 et que le pays, au lieu de progresser, ait régressé.
Progressing, we have regressed.
Juste diplômé du Yaba College of Technology, Maxwell Okoro est embauché à la Banque centrale du Nigeria où il travaillera pendant 35 ans. Mais en toile de fond, la trajectoire de son pays est moins linéaire.
We got our independence in 1960.
À l'indépendance, en 1960, le Nigeria était un régime parlementaire. Mais en 1966, les militaires ont pris le pouvoir pour la première fois et ont mis fin à la démocratie. Ils ont suspendu la constitution et imposé la loi martiale dans le pays. En 1967, c'est le début de la guerre civile, avec la sécession du Biafra. Cette guerre a duré 3 ans et elle a disloqué le Nigeria. Une dislocation structurelle, économique et politique. Cette guerre a pris fin en 1970. Le général Gowon, qui était alors au pouvoir, a déclaré qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Le but était bien sûr de réintégrer les Igbo et de restaurer l'unité du Nigeria. Mais il y a eu d'autres coups d'État par la suite. suite. En 1975, quand Gowon a annoncé qu'il n'était pas prêt à céder le pouvoir comme prévu, le général Obasanjo l'a renversé pour remettre les civils aux commandes. Mais en 1983, il y a eu un nouveau coup d'État, mené cette fois par Muhammadu Buhari. Vous voyez un peu la tendance qui se dessine ? Peut-être que s'il n'y avait pas eu autant de coups d'État, si les militaires n'étaient pas restés si longtemps au pouvoir, peut-être que le Nigeria serait allé très loin.
Ballotté de coups d'État en républiques éphémères, marquées par la guerre civile, le Nigeria n'a pas explosé. L'historien Vincent Iribarren, qui enseigne à Londres, revient sur la question centrale de l'équilibre politique dans ce pays hors normes.
Ce qui était la colonie Nigeria britannique, qui était en fait un groupement d'États très variés, avec une très longue histoire, une histoire très différente, en plus conflictuelle, avec des populations qui ne parlent pas forcément ni les mêmes langues, ni ne pratiquent la politique de la même façon. Donc il y a cette idée en fait, de trouver cet équilibre au sein du Nigeria, qui a toujours été central finalement dans l'histoire du pays jusqu'à aujourd'hui. Alors quelle forme donner au pays ? Est-ce que ça devrait rester une fédération ? Est-ce que le pays doit éclater ? C'est vraiment des questions qui sont centrales en fait. Est-ce que le Nord est vraiment un pays à part, parce que voilà, il y a toutes ces questions en fait, d'équilibre régional, d'équilibre entre différentes populations, d'équilibre entre différents groupes qui n'ont pas forcément les mêmes rapports au pouvoir ni la même histoire. C'est d'autant plus présent que c'est un pays quand même très peuplé. Dans toute l'Afrique occidentale française à l'époque coloniale, il y avait autant d'habitants que dans toute la colonie du Nigeria. Et aujourd'hui, c'est toujours le même équilibre. Il y a toujours autant d'habitants dans le Nigeria qu'il y en a dans tous les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup, beaucoup de monde au Nigeria, avec ce que ça peut poser en termes de création de richesses, parce que ça pose aussi un problème en termes d'accès aux soins, à l'éducation, et ainsi de suite, avec les populations très fortes. Donc cette question démographique est un peu une constante depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui.
L'unité, mais à quel prix ? À en croire l'historien, celui fixé par une classe politique vieillissante et conservatrice aux commandes depuis l'indépendance.
Vous avez une génération qui l'a depuis la guerre du Biafra. C'est les mêmes, hein, Buhari. Il était déjà chef d'État dans les 80, lui. Il était gouverneur militaire de l'État du Borno dans les années 70. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ils sont énormément à être cette génération-là. Donc les gens parlent souvent d'une gérontocratie pour le Nigeria. Cette génération politique a voulu se débarrasser de tous leurs opposants, même dans l'armée, de peur des coups d'État sans cesse. L'armée a été complètement vidée de son côté professionnel. À un moment, c'était même plus une armée, tellement ils étaient politisés. Donc il a fallu le vider. Dans la vidant, désorganisé. Quand on désorganise une armée, elle n'est plus en mesure de se battre contre une menace comme Boko Haram. Ouais, c'est une génération qui a complètement eu la mainmise sur le pays et qui l'a désorganisé profondément, en plus, je pense. C'est tous des amis, c'est tous des connaissances. Ils sont tous plus ou moins des mêmes promotions militaires. Hein. Ils sont tous nés du creuset du Biafra. Et le Biafra, je pense que c'est vraiment le traumatisme qui peut expliquer beaucoup de choses aujourd'hui au Nigeria aussi. L'idée que l'unité du pays sera maintenue à tout prix. Donc Boko Haram, les bandits, les rebelles du delta du Niger, c'est expliqué par l'incurie de ces politiciens, mais aussi surtout parce que c'est tous les politiciens en place vont tout faire pour maintenir l'unité du Nigeria. Donc ils vont envoyer l'armée tirer dans le tas. Ça va être des méthodes drastiques. Tous ces hommes politiques au sommet de l'État, hein, encore une fois, c'est le sommet de l'État. Ils sont des produits de cette génération et ils maintiennent le pays dans cette atmosphère. Et ça se retrouve à tous les niveaux, socialement aussi. Beaucoup de Nigériens ont l'impression d'être bloqués un peu.
Le sentiment d'être bloqué, coincé, Ruben le ressent certainement alors qu'il progresse péniblement dans les embouteillages de Lagos. Dans son taxi, le jeune homme de 28 ans a accroché un fanion à la gloire de l'armée nigériane. Titulaire d'une licence de chimie et d'un master en gestion du développement qui ne lui ont jamais permis de trouver un emploi, il rêve maintenant de devenir militaire comme son père et son frère avant lui.
I grew up in the barracks, so I've always loved.
J'ai grandi à la caserne, donc j'ai toujours adoré la profession de militaire. C'est une profession très prestigieuse. J'aime l'action que ça implique, j'aime tout dans l'armée. J'aime l'uniforme, quoi.
I love the uniform.
You know where we're going, huh?
Yes, yes.
I know.
J'aimerais savoir si vous avez le sentiment de connaître l'histoire du Nigeria.
Franchement, l'histoire ne m'a jamais beaucoup intéressé, même si on l'a un peu étudié. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes occupés par d'autres choses. Je connais quelques dates. Le 1er octobre 1960, l'indépendance du Nigeria et quelques petites choses comme ça. Je sais qu'il y a eu des régimes militaires, des coups d'État. J'ai déjà entendu mon père ou ses ses amis dire « Oh, les militaires devraient reprendre le pouvoir ».
Est-ce que vous avez entendu parler de la guerre du Biafra, par exemple ?
J'en ai entendu parler, oui. Oui, je vois qui c'est, mais je n'y connais pas grand-chose, honnêtement.
Est-ce qu'il y a des noms de leaders politiques qui vous viennent à l'esprit ?
Oui, oui. En premier, Obasanjo, quelqu'un qui a été à la fois un leader civil et militaire. Et même Buhari. Buhari est là depuis toujours, en fait. Je pense qu'un des problèmes avec ce pays, qui explique pourquoi nous, les jeunes, on en a assez de ces vieilles histoires, c'est que les mêmes personnes sont constamment recyclées, donc les jeunes n'ont aucune opportunité. Imaginez, si un jeune veut devenir président en 2023, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas, parce que ce sont toujours les mêmes. Je préfère faire ce que je peux avec l'aide de Dieu. Si tu continues à espérer, tu vas juste être frustré et peut-être même tué. C'est comme ça la politique nigériane. Peut-être que c'est pour ça que nous ne connaissons pas notre histoire en fait. Nous n'avons plus le temps pour ça.
Loin des quartiers huppés et des îles de Lagos, la majorité de la population survit au jour le jour dans les rues grouillantes du mainland, au-delà de la lagune. Damilola Awopejo vit avec sa mère et ses neveux dans l'atmosphère viciée d'un minuscule de pièces plongée dans l'obscurité. Elle étudie au Yaba College of Technology, comme Maxwell en son temps. Malgré la crise et le manque de perspective, la jeune fille affiche une immense détermination.
Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas l'histoire. Ils ont du mal à s'arrêter, à lire et à apprendre ces choses-là. Nous accordons beaucoup trop d'importance à l'argent. Au lieu de nous intéresser à nos racines, les filles veulent juste être jolies, prendre de belles photos et les poster sur Instagram. Les garçons, eux, veulent juste s'habiller et dominer les autres. Il n'y a pas eu de réel développement au Nigeria. Je crois que c'est pour ça que les jeunes ont perdu le sens des responsabilités. Pourtant, notre pays est riche. Nous avons de la terre, nous avons des minerais, nous avons des ressources. Mais notre gouvernement, ils sont avides, on va dire ça comme ça. Ils veulent tout garder pour eux.
La corruption, c'est quelque chose que tu perçois, que tu vois.
La corruption est évidente, c'est devant les yeux de tout le monde. Mais je ne vais pas blâmer le gouvernement, parce que je crois que chaque Nigérian est né dans la corruption. La corruption coule dans nos veines, tout le monde le fait, à tous les niveaux. Il faudrait quelqu'un de très fort, avec une foi très grande pour résister à la corruption, parce que c'est en chacun de nous. C'est notre truc, chaque minute, chaque seconde, quelqu'un parle de corruption ici.
C'est quoi ton plan pour le futur ?
J'attends d'être diplômée, j'étudie l'ingénierie électrique et je veux me spécialiser là-dedans. Si on pouvait commencer par améliorer notre réseau électrique, le pays pourrait peut-être s'en sortir.
L'enfant est né, c'est une merveille à voir. Mais le temps passe et ses jambes refusent de marcher. Ses paroles sont incompréhensibles et incohérentes. L'enfant est maudite en raison de sa paternité. Elle se nomme Nigeria. Des mains avides brisent sa couveuse et tâtent sa chair souple. Les doigts du tribalisme, protégés par des gants de démocratie vénale et couverts de bagues corrompues, s'immiscent dans son lit de souffrance et de dette. Elle est lente à mûrir, à comprendre. Elle est prématurée. Dès sa naissance, elle est malade. L'enfant est mort-né. Extrait du roman Stillborn de Die Ekoye Oyeyinka.
J'ai voulu écrire un livre qui donnerait un aperçu du Nigeria après l'indépendance, qui donnerait une idée de ce qu'est notre culture, notre art, notre histoire. Parce que je n'ai rien appris de tout ça à l'école. Beaucoup de Nigérians ne savent rien de la guerre civile, par exemple, avant de devenir adulte. Ce n'est pas dans les programmes d'histoire, ce n'est nulle part. J'ai découvert la guerre du Biafra quand un gamin de mon école m'a montré un billet biafrais. J'ai demandé ce que c'était, il m'a dit « Oh, ce n'est pas pour toi, c'est réservé aux Igbo ». J'ai posé la question à mes parents, mais ils ont éludé. Bien plus tard, quand j'étudiais à Washington, un ami américain m'a raconté que lorsqu'il était petit, sa mère lui disait de finir son assiette, parce que les enfants du Biafra mouraient de faim. Je me demandais de quoi il parlait. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'on avait laissé 2 millions de personnes mourir de faim. Et on n'en avait jamais parlé. Mon livre est très influencé par Fela Kuti. Chaque chapitre fait écho à l'un de ses titres. Quand nous vivions en Hollande, mon père avait acheté l'intégrale de sa discographie. Et en l'écoutant, j'ai réalisé que c'était toujours exactement les mêmes problèmes. Et plus choquant encore, c'est exactement les mêmes noms. Obasanjo, Buhari. Les mêmes types qui ont ruiné le pays dans les années 70, puis dans les années 80. Et on est dans les années 2000 et ce sont encore les mêmes. Donc j'ai eu le sentiment que nous avions peut-être besoin de nous rappeler où ces gens nous avaient amenés par le passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Diekoye Oyeyinka a 33 ans. Après des années passées à l'étranger, il revient au Nigeria en 2009, ses diplômes internationaux en poche, pour voir où en est le pays. En 2014, le jeune entrepreneur publie son premier roman, Stillborn, pour tenter de saisir cette histoire qui échappe autant qu'elle se répète.
Nous étions tellement faim pour l'indépendance.
Nous avions tellement soif de liberté que nous n'avons pas vraiment réfléchi à ce qui allait se passer quand on nous a donné les clés de notre indépendance. Nous ne nous sommes pas assis à la même table en nous disant « nous sommes frères ». Nous devons construire ensemble. À l'indépendance, ce sont trois régions, le nord, l'ouest et l'est, qui ont pris le nom de Nigeria. Bien qu'indépendants, nous n'étions toujours pas un pays uni. Or, en ne mettant pas les bonnes structures en place, nous avons condamné ce pays à un échec inévitable. C'est pour ça que je dis que ce pays est mort-né.
Après l'enthousiasme des débuts, beaucoup de jeunes repats comme Diekoye Oyeyinka ont échoué et choisi de repartir. Mais lui croit encore que les promesses du Nigeria peuvent se concrétiser.
Les Nigérians sont la minorité qui a le plus de succès aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'on reste persuadé qu'on peut faire fonctionner notre pays. Parce qu'on se dit, on y arrive bien à l'étranger. Donc c'est pas possible, on va bien finir par comprendre comment y arriver chez nous aussi. Et puis les possibilités de réussir sont énormes ici. Si tu arrives à trouver le bon business model, les bons contacts, tu peux faire énormément d'argent. À cause de la population importante et parce que tout est cassé. Si tu trouves quoi réparer et comment le faire, alors tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Le potentiel pour un succès fulgurant est vraiment très élevé au Nigeria. Ici, il est possible de bâtir une véritable fortune. Et cette opportunité-là, jamais l'Occident ne la donnera à un homme noir. La possibilité pour nous de devenir milliardaires, ça ne peut arriver qu'ici.
Dans les milieux aisés de Lagos, l'appartenance communautaire s'efface pour laisser place à la bonne marche des affaires. Tabia Prince-Will en est persuadée, la ligne de fracture se situe réellement entre les riches et les pauvres. Cette ancienne journaliste, actuelle conseillère du président de l'Assemblée nigériane, est revenue dans le pays en 2011 après des études à Paris et à Londres.
Dans l'ADN du Nigeria, il y a cette concurrence entre élites politiques. Parce que les Britanniques, en partant, ont mis en marche ce système en fait. Cette concurrence entre élites qui, en apparence, appartiennent à des groupes communautaires différents, mais qui, en réalité, représentent des personnes qui, au départ des Britanniques, ont eu accès à des ressources qu'elles n'ont finalement ni voulu partager, ni voulu démocratiser. Et on se retrouve donc aujourd'hui à un moment, je pense, assez clé de notre histoire où il y a une jeunesse qui se réveille petit à petit et qui réalise, en fait, que le projet politique ne marche pas. Que dès le début, dès 1960, on a mis en place un système qui ne pouvait jamais marcher. Parce que c'est un système qui est bâti autour, finalement, de l'accaparement des ressources par un petit groupe minoritaire qui va exploiter, en fait, tout le reste de la population. On ne peut pas dire aux gens qu'en fait, vous êtes pauvres parce que le système ne fonctionne pas. On préfère à dire, vous êtes pauvres parce qu'un tel qui vient de ce village fait en sorte que vous, du village d'à côté, n'ayez pas accès aux ressources. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Ces deux, un tel-là, travaillent très bien ensemble pour faire en sorte que le reste de la population ne puisse pas avancer.
Tabia croit encore à l'avenir du Nigeria et à l'énergie irrésistible de son immense population. La jeune femme est persuadée que l'État doit revenir sur le devant de la scène.
Je crois fondamentalement que les Nigérians sont l'espoir du Nigeria, les vrais Nigérians, les gens que je rencontre dans la rue, les gens autant dans nos villes que dans nos villages, qui se lèvent tous les jours et qui décident de faire quelque chose de leur vie. Et c'est en ça que moi je garde espoir. Ce sont ces gens-là qui me donnent confiance, qui me montrent qu'on a un avenir ensemble. Aujourd'hui, on a Nollywood, une industrie qui s'est construite toute seule, presque sans soutien de l'État. L'État finalement vient après. L'État vient quand les choses sont déjà construites, quand les choses sont déjà arrivées à un niveau où le monde parle de nous. Mais je me dis, et c'est pour ça que je fais de la politique, je me dis, imaginez-vous tout simplement un Nigeria où l'État s'occupe de ses citoyens. Mais là, le Nigeria serait, ce serait une force unstoppable, comme on dit, parce que les gens déjà sont là et sont prêts. Ils ont juste besoin qu'on s'investisse finalement dans leur vie.
Mama t'aime quand tu me, papa t'aime quand tu me.
60 ans d'indépendance du Nigeria, un géant sur la brèche. Un grand reportage de Lisa Fabian. Réalisation Pierre Chaffange. Then talk for it.